Bonsoir. Merci d'être venu cette veille de solde, ce lundi soir à 18h, pour m'écouter parler donc d'un livre sur la biomédecine, la bioéthique, qui est une analyse du débat bioéthique actuel. Je vais faire une conférence, je vais introduire, disons, présenter mon livre, mais ce que j'aimerais surtout, vous n'êtes pas très nombreux, c'est qu'on ait la possibilité de se parler, que je puisse répondre aux questions que vous vous posez, qu'on puisse discuter ensemble. Donc, d'abord, deux mots pour me présenter, pour expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Je suis sociologue du droit, je m'occupe des transformations de la famille, de la parenté, de la vie privée. Et d'ailleurs, paradoxalement, ces sujets n'incluaient pas traditionnellement ce qu'on appelle la bioéthique. Il y avait vraiment une sorte de coupure entre le domaine biomédical, qui était le domaine des médecins, le domaine des psychologues, psychanalystes, philosophes, moralistes, mais qui était assez séparé des débats contemporains sur les transformations de la parenté. Et cependant, il paraît évident qu'à travers les nouvelles technologies de la procréation, le développement du recours à des dons de sperme, des dons de gamètes, des dons d'embryons, des mères porteuses, etc. Ce qui est en question, c'est bien notre idée de qu'est-ce que c'est qu'un parent, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est que la filiation, qu'est-ce que c'est que la famille. Et donc, il était logique qu'à un moment, ces domaines complètement séparés, la biomédecine qui est le terrain des médecins et la parenté dont les juristes et sociologues s'occupent dans les familles plus classiques, se rencontrent. Et donc, je me suis intéressée à ces questions il y a déjà une dizaine d'années, et je travaille maintenant de façon, comme c'est le travail des sociologues, de façon quotidienne, habituelle, dans un centre d'assistance médicale à procréation à Marseille, où je mène une enquête avec mes équipes d'étudiants et de collègues chercheurs sur les questions du masculin et du féminin dans l'assistance médicale à procréation. Alors, la particularité de ce livre dont je vais vous parler, c'est que c'est le livre de quelqu'un qui est engagé dans le débat actuel et en même temps qui essaye à un moment de prendre distance par rapport à un débat où elle est elle-même engagée et qui est un débat très passionnel, où les gens montent aux arbres très fortement, très rapidement, avec l'impression qu'ils ne peuvent pas se comprendre et où chacun défend des positions très, très solides. Alors, l'engagement dans le débat actuel, c'est le fait que depuis maintenant longtemps, je pense que la question de l'anonymat dans les débats sur l'assistance médicale à procréation, l'anonymat dans les cas où les personnes ont eu recours à un don pour faire un enfant, un don, encore une fois, de gamètes ou un don d'embryon ou un don de gestation, que cette question n'est pas une question comme les autres. Parce que selon qu'on va maintenir l'anonymat ou qu'on va le lever, en fait, c'est le sens que l'on donne à cette façon quand même assez particulière de mettre des enfants au monde qui va changer. Donc je suis alertée depuis longtemps sur ce sujet et je suis aussi depuis assez longtemps convaincue que le droit actuel ne va pas de soi, puisque le droit actuel, c'est celui qui conserve dans des dossiers cadenassés, dans des armoires fortes pendant 30 ans, l'identité des personnes qui ont permis à un enfant de naître, sans que ces enfants puissent justement avoir accès à ces dossiers qui les concernent et qui sont inaccessibles. Donc ça ne va pas de soi, et depuis longtemps je me demande pourquoi on a établi cette règle, pourquoi tant d'autres pays l'ont fait changer, pourquoi en France on ne peut pas la faire évoluer. Et donc, j'ai participé dès le début au débat préparatoire à la prochaine révision des lois de bioéthique. Vous savez, il va y avoir une révision de la loi qui va commencer en février prochain. Le projet de loi a été déposé en novembre dernier. Depuis décembre, il y a une commission parlementaire qui examine le projet. Normalement, l'Assemblée nationale va commencer à étudier ce projet en février. Après, il va y avoir les allées-venues au Sénat, retour à l'Assemblée nationale. Et on est là à la fin d'une préparation qui dure depuis maintenant plusieurs années. La préparation officielle de cette rénovation a commencé en 2007. Et on a eu une succession déjà de rapports par des autorités comme le groupe d'évaluation d'évaluation parlementaire des choix scientifiques et techniques, puis ensuite un rapport du Conseil d'État, un rapport d'une mission parlementaire présidée par Monsieur Leonetti. Donc c'est déjà un débat qui est assez mis en forme. Donc dans ce débat, la position que je défends, qui est d'une levée de l'anonymat, est très minoritaire. Et j'ai écrit ce livre au cours des derniers mois, de la dernière année, à un moment où il m'a semblé que jamais cette idée, cette position n'avait été aussi minoritaire. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-il si difficile en France d'attirer l'attention sur ce qui ne va pas de soi dans le fait de priver les enfants qui naissent de cette assistance médicale à la procréation d'accéder à leurs origines, c'est-à-dire à l'identité des personnes qui leur ont permis de naître. Donc, le livre, c'est une tentative de prendre distance, y compris par rapport à ma propre passion. Et qu'est-ce que j'ai comme outil pour prendre distance ? Ben, c'est très simple, j'en ai qu'un comme sociologue, qui est la comparaison. C'est le fait de situer, de prendre du recul par rapport au débat français et d'essayer de le situer dans un contexte par rapport aux débats qui ont lieu dans d'autres pays, qui ont eu lieu aussi dans d'autres périodes, de resituer le présent dans l'histoire qu'il a construite, par exemple, pour essayer de décoller un peu de l'immédiat des débats qui sont organisés aujourd'hui dans les médias ou dans les arènes politiques. Alors, ce qui me frappe le plus quand j'essayais d'examiner le débat français sur ces sujets, c'est d'abord que, je ne sais pas si vous avez suivi de près la préparation de la rénovation de la loi bioéthique, mais disons qu'il y a plusieurs sujets qui sont en débat aujourd'hui. L'assistance médicale à la procréation n'est qu'une partie. Hein. Il y a aussi des débats sur d'autres sujets, comme la recherche, par exemple, sur les cellules souches, hein, et la façon dont on va autoriser ou pas les chercheurs à utiliser telle ou telle cellule embryonnaire pour faire des recherches, ou l'avenir de tous ces embryons qui sont en stock par milliers dans des cuves, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va continuer à interroger les gens année après année en leur demandant s'ils veulent détruire leurs embryons, les conserver, les donner, etc. Ou est-ce qu'on va prendre d'autres décisions ? Donc il y a plein de sujets, mais moi je me suis intéressée seulement à une partie qui est l'assistance médicale à la procréation. Alors d'abord, un mot peut-être sur le fait que dans la prochaine révision, le débat sur l'assistance médicale à la procréation a pris une grande importance. Pour bien le comprendre, il faut se rappeler que c'est la deuxième fois qu'on rénove la loi bioéthique. Donc la loi bioéthique, elle apparaît en France en 1994. C'est la première loi bioéthique. On se dote d'un ensemble cohérent de dispositions sur ces sujets qui concernent le début et la fin de vie, la recherche, mais aussi la clinique en matière d'assistance médicale à la procréation. Donc tout un vaste ensemble de sujets. On se dote d'une loi, dite loi bioéthique, et on dit qu'elle va être rénovée régulièrement. Normalement, c'était prévu tous les 5 ans, mais ça a été rénové, en fait, au bout de 10 ans, donc en 2004, pour la première fois. Et puis maintenant, vous voyez, ça va faire 6 ans, au bout de qu'est-ce que je dis, 7 ans, 2004, oui, 2011, 7 ans, pour la deuxième rénovation. Donc on a du mal à tenir l'engagement qui avait été pris au départ de rénover régulièrement. Alors la dernière fois, en 2004... Tout le débat, si vous en souvenez peut-être, a été focalisé sur la question du clonage. Est-ce qu'on allait permettre le clonage ? Quel clonage ? Etc. Et ce débat a éclipsé tout le reste. Il n'y a donc pas eu de véritable débat sur l'assistance médicale à la procréation. Donc c'est assez logique que maintenant, ce qui avait été un peu mis de côté revienne, tout simplement parce que de plus en plus de gens sont concernés par ces techniques d'assistance médicale à la procréation. Et chacun de nous, peut-être dans son entourage, connaît quelqu'un qui s'est interrogé sur sa possibilité de faire un enfant, à un neveu, une nièce, un cousin, un fils, une fille qui a eu recours à ces techniques. Alors pourquoi ? D'abord, ça se développe beaucoup. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a des problèmes de stérilité nouveaux qui se posent et qui certainement se poseront à l'avenir. Alors, un élément pour vous en donner une idée, on sait maintenant qu'il y a de façon générale dans nos sociétés une transformation importante du sperme masculin. La quantité de spermatozoïdes dans un millilitre de sperme a énormément baissé. Et il y a donc beaucoup de réflexions sur cette transformation qui semble liée à nos modes de vie. La façon dont nous vivons, dont nous nous climatisons, nos modes de consommation, notre environnement, nos produits ménagers, nos pesticides, on ne sait pas. Un ensemble de choses font que quelque chose est en train de se transformer assez vite dans la capacité procréatrice des hommes. Alors pour le moment, cette baisse de la qualité du nombre des spermatozoïdes n'affecte pas du tout la capacité procréatrice des hommes. Comme ça se chiffre en millions ou en milliards, le nombre de ces spermatozoïdes, même s'il y en a deux fois moins, c'est encore bien suffisant pour faire des enfants. Mais enfin, c'est sûr qu'à long terme, les savants s'inquiètent sur cette évolution et on va tenter de comprendre. Et on peut penser qu'à l'avenir, si on ne transforme pas notre façon de vivre de façon importante et assez rapide, ces questions de difficulté à procréer des hommes vont se multiplier. Pour les femmes, c'est assez différent. Ce qui affecte la capacité procréatrice des femmes, c'est principalement le fait qu'elles pensent, elles souhaitent faire des enfants, elles se sentent en situation de faire des enfants de plus en plus tard. Aujourd'hui, 18 ans, pour faire un enfant, ça paraît extrêmement jeune. C'est pourtant les moments, 17-18 ans, où on est les plus fertiles. Donc il y a un écart entre le calendrier biologique de la fertilité et le calendrier social, en quelque sorte, qui s'écarte de ce calendrier biologique de plus en plus, puisque maintenant, l'âge au premier enfant tourne autour de la trentaine, mais enfin plutôt maintenant 32 à Paris, par exemple. Et donc, on se soucie d'un premier enfant à un âge où déjà la capacité, la fertilité décline. Et donc, viennent demander l'aide de l'assistance médicale à la procréation des femmes qui découvrent quelquefois tardivement qu'elles ont justement déjà une baisse de fertilité. Et ne parlons pas des cas où ça n'est pas la première tentative, mais c'est après un divorce, un remariage, une recomposition familiale, etc. Donc à cause de ces questions de calendrier, il va aussi y avoir davantage de demandes. Alors les réponses, cela dit, pour le moment, il faut bien avoir en tête que c'est très minoritaire. Disons que c'est 5% des enfants qui naissent d'assistance médicale à procréation. Alors 5%, c'est peu, mais enfin, c'est pas rien. Hein. Et surtout, si, comme on peut le penser, ça s'est amené à progresser rapidement à l'avenir. Alors parmi ces 5% d'enfants qui naissent d'assistance médicale à procréation, l'immense majorité naissent de ce qu'on appelle une assistance médicale à procréation intraconjugale. Ce qui veut dire qu'un couple, alors en France c'est par hypothèse un couple formé d'un homme et d'une femme, qui vivent en union stable qui sont en âge de procréer et qui ont une infertilité pathologique constatée depuis plus de 2 ans. Ça, c'est les règles qui vous donnent accès à la possibilité de bénéficier de ces techniques. Donc, c'est des règles assez restrictives par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus libéraux sur l'accès à la procréation, que ce soit pour les femmes seules, les couples de même sexe, ou des personnes plus âgées, etc. Donc, nous, on est très stricts. Et donc, ces couples, la plupart du temps, l'AMP intraconjugale, ça veut dire qu'on a pu résoudre le problème et permettre à ce couple de procréer. Par exemple, cette femme avait un problème de trompe et on a pu faire une une fécondation in vitro et réimplanter l'embryon dans son utérus et pas de problème. Ou bien cet homme avait un problème de sperme déficient, mais on a pu aller chercher un spermatozoïde et l'implanter directement dans l'ovule, et cet homme a pu, qu'on aurait dit autrefois stérile, en fait, a pu procréer. Donc, c'est vraiment la minorité dans la minorité dont je m'occupe, puisque c'est le cas où cette AMP intraconjugale a échoué, il y a eu un échec thérapeutique, et donc on propose à ce moment-là aux personnes de recourir à un don de sperme, ou un don de gamètes, un don d'ovocytes, etc., ou un don d'embryon. Et ça représente, disons, selon les statistiques officielles, 1500 enfants à peu près chaque année, c'est très très peu. Vous voyez, donc, quand vous voyez des débats à la télévision sur les mères porteuses, sur... il faut toujours avoir en tête que c'est des sujets très importants du point de vue de la réflexion collective, mais qui concernent une très petite minorité. Il ne faut pas les traiter comme si ça allait bouleverser la situation de la filiation pour tout le monde. Il faut plutôt les traiter comme des questions de notre capacité à intégrer des situations très minoritaires et très particulières qui seront toujours en train de se confronter à l'immense majorité des cas. Donc ne l'oubliez pas. Alors, selon les statistiques officielles, environ 1500 enfants qui naissent de ces techniques, mais on ne doit pas oublier que la France est si restrictive dans ses acceptations que nous avons aujourd'hui une situation où beaucoup de couples vont chercher à l'extérieur de nos frontières ce qu'on ne leur donne pas à l'intérieur. Il y a donc beaucoup de personnes qui vont en Espagne parce que en France, on manque de dons d'ovocytes, de donneuses d'ovocytes. On en a trop peu. Et donc, on va aller chercher en Espagne, où il y en a beaucoup plus, entre autres parce que là-bas, les dons sont rétribués, alors que chez nous, ils ne sont pas rétribués. Il y a beaucoup de couples qui vont en Belgique, aussi, par exemple, parce qu'en Belgique, on accepte que deux femmes puissent recevoir une insémination par un don de sperme, alors que chez nous, les couples lesbiens ne sont pas autorisés. Il y a également des gens qui vont en Angleterre, par exemple, pour bénéficier d'une gestation pour autrui qui est interdite chez nous, ou qui vont aux États-Unis. Donc on est un pays qui, si on pouvait compter véritablement toutes les naissances nées de ces procréations transfrontalières, on va dire, faudrait peut-être doubler le chiffre, il faudrait dire il y a 3000 enfants. Mais c'est de cet ordre-là. Donc c'est très peu de monde, mais c'est quand même une question très importante. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour vous présenter mon livre ? Eh bien, je peux présenter tout simplement les trois parties de ce livre en expliquant pourquoi je les ai conçues comme cela. Mon objet, c'est donc de proposer une analyse critique du débat bioéthique français de ces trois dernières années. Principalement donc sur l'assistance médicale, l'AMP, on va dire, avec tiers donneur, et principalement sur la question de l'anonymat, qui pour moi engage non pas simplement l'anonymat, mais l'AMP avec le sens que nous donnons à cette pratique en général. La première partie de mon livre, je l'ai intitulée « Le malentendu du débat français ». Et de quoi est-ce qu'il est question ? Eh bien, je reviens sur le débat des trois dernières années qui s'est poursuivi sur l'anonymat, et j'essaye de comprendre une chose très simple. Pourquoi est-ce que les gens qui sont opposés à la levée de l'anonymat accusent-ils toujours les jeunes gens qui sont nés de ces pratiques, donc des enfants nés du don, qui revendiquent l'accès à leurs origines ? Pourquoi est-ce qu'on les accuse de vouloir biologiser la filiation ? Pourquoi on les accuse d'avoir une conception biologique de la filiation ? C'est très bizarre, parce que ces enfants ne revendiquent pas du tout de changer de filiation. Ils disent « on a des pères, on a des mères, on a des parents ». Ce qu'on recherche, ce n'est pas des nouveaux parents. Ce qu'on veut, c'est pouvoir identifier quelqu'un qui, justement, n'est ni notre père ni notre mère, mais a permis que nous naissions. On voudrait savoir... nous ne sommes nés de personne, nous ne sommes pas nés d'un matériau biologique, nous sommes nés d'individus, comme les autres personnes, et on voudrait que ces individus puissent avoir, comme tous les humains, un visage, un nom, une identité, et qui ne soit pas effacé comme si nous étions nés d'un pur matériau. Voilà. Donc là, il y a un énorme malentendu, puisque quand on débat en France, même après 3 ans, on vous explique que si on levait l'anonymat, eh bien, le risque, ça serait qu'un jour, l'enfant aille sonner à la porte de son donneur et dise « Bonjour papa, bonjour maman, c'est moi ». Bon. Alors qu'il n'est pas question de cela. Donc c'est comme si en France, on n'arrivait pas à entendre le sens de la revendication de lever de l'anonymat qui est portée par les enfants qui sont nés du don et qui aujourd'hui sont accompagnés par leurs parents, et d'ailleurs, mais aussi par des gens comme moi qui ont essayé d'écouter leur quête. Alors ce malentendu, je crois qu'il apparaît très clairement quand on sort du débat français et qu'on fait une chose très simple, c'est qu'on se dit « mais est-ce qu'on est seul au monde ?» Le débat qui existe en France sur l'anonymat, est-ce qu'il ne s'est pas déjà développé dans d'autres pays ? Et donc, dans mon livre, dans cette première partie, je fais principalement un exercice qui consiste à nous resituer parmi les autres pays, en particulier européens, qui, comme nous, il y a 40 ans à peu près, ont développé l'assistance médicale à procréation, qui, comme nous, à l'époque, ont toujours, dans le cas des dons, prévu l'anonymat, et qui, pourtant, au bout d'un certain nombre d'années, ont décidé de changer, de revenir sur leur loi et de lever ce principe d'anonymat qu'ils avaient accepté au départ. Alors, ces pays sont très nombreux, et ça, on n'en parle pas assez dans le débat français. On fait comme si on était les premiers à découvrir ce problème. On en discute à partir d'arguments dits de bon sens. On ne s'intéresse pas du tout à l'expérience des autres pays. Or, ces pays sont maintenant nombreux. La Suède, en 84, la Suisse et l'Autriche, en 92, l'Islande, en 96, je reste en Europe. La Norvège, en 2003, les Pays-Bas, en 2004, le Royaume-Uni, en 2005, la Finlande, en 2006, la Belgique, en 2007. Vous voyez, c'est presque toute l'Europe du Nord, à l'exception de l'Allemagne, qui a basculé en revenant sur le principe d'anonymat des dons, alors qu'au sud, pour le moment, dans les pays, disons, plus de tradition latine, plus de tradition catholique, on n'a pas voulu, et moins protestante, si on veut, on a maintenu le principe de départ. Donc, si on s'intéresse à l'expérience des pays qui ont levé l'anonymat, qu'est-ce que ça nous apprend ? Par rapport à ce qu'on entend toujours répéter en France. Je crois que ça nous apprend principalement 2 choses. La première chose que ça nous apprend, c'est que ces pays ont commencé à interroger leurs propres lois à partir d'une question qui n'était pas du tout une question psychologique sur le mal-être des enfants seulement, qui était une question juridique. C'est une question de justice, une question de droit. C'était même une question de droits fondamentaux de la personne. Le point de départ, c'est toujours celui-là. C'est une interrogation sur la conformité au grand principe du droit qui est la nôtre si nous organisons des situations dans lesquelles une information très importante sur quelqu'un, par exemple de qui cette personne est-elle née, cette information est connue et elle est détenue par une administration toute puissante, dans des dossiers que cette personne concernée ne peut pas consulter. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème de transparence biologique, c'est un problème particulier d'organisation d'un secret d'État. Il ne s'agit pas de dire on va aller vérifier la conformité de tous les enfants à leur identité, s'ils sont vraiment les fils ou filles de ceux qui se disent leurs parents, ils ne sont pas les enfants biologiques de leurs parents. Il s'agit de s'interroger sur le fait qu'on détient une information concernant la personne et qu'on lui cache cette information à laquelle elle n'a pas accès. Eh bien, ces pays ont considéré qu'il était contraire aux droits fondamentaux de la personne que de maintenir une telle situation. De ce point de vue-là, on est dans la logique, si vous voulez, des progrès des droits des patients. Vous savez qu'autrefois, nous n'avions pas, en tant que patients, accès à nos dossiers médicaux. Bon, les enfants adoptés autrefois n'avaient pas accès à leur dossier d'adoption. Donc il y a dans le droit, dans les sociétés démocratiques, une évolution dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui est que les personnes ont accès aux informations les concernant, et en particulier quand ces informations sont détenues par des administrations, hein, ou des institutions, et où c'est le droit qui empêche les personnes d'avoir recours. Donc moi, je suis premier étonnement. Il y a très peu de considération dans le débat actuel en France sur cet aspect du droit fondamental des personnes. Souvent, on fait la confusion entre accès aux origines dans ce cas-là, hein, où il s'agit d'une information connue et dissimulée, et comme si c'était une espèce de volonté de transparence généralisée dont, à laquelle personne, à ce que je sache, ne propose de recourir aujourd'hui pour vérifier l'identité biologique des enfants. Puis la deuxième leçon qu'on apprend des pays qui nous entourent, c'est que, partant de questionnements sur les droits des enfants, les droits des personnes, en fait, ils ont lancé une interrogation plus générale sur les raisons pour lesquelles on avait anonymisé les dons. Et ils ont commencé à développer une critique de ce principe d'anonymat quand ils se sont aperçus qu'en fait, si on anonymisait les dons, au départ, c'était principalement pour permettre aux parents de maintenir un secret total sur leur recours à ces modes de procréation. Donc l'anonymat avait d'abord pour fonction d'être le serviteur du secret. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand on a développé, à partir des premières banques de sperme dans les années 70, on a commencé à développer les dons. En fait, tout a été fait pour qu'on puisse faire croire que celui des parents qui était stérile, à l'époque c'était le père, parce qu'il n'y avait que des dons de sperme au début, donc qu'on puisse faire passer ce père stérile pour le véritable géniteur de l'enfant. Et donc, on organisait une procréation et on garantissait au couple que ce recours à cette procréation particulière, il pourrait la cacher à son entourage et même à l'enfant lui-même. Et d'ailleurs, il faut dire qu'aujourd'hui, la majorité des enfants qui sont nés ainsi n'ont pas été informés de leur mode de conception. Ça n'est pas simplement un non-dit, hein, c'est plus qu'un non-dit, puisque c'est un mensonge de fait, puisque l'enfant croit que son père stérile, par exemple, est son véritable géniteur. Et donc, les enfants qui aujourd'hui revendiquent l'accès à leurs origines, par hypothèse, c'est des enfants à qui, au contraire, on a raconté comment ils sont nés, hein. Et donc, ils ne sont pas enfermés dans le secret, mais en revanche, une fois qu'on leur a dit comment ils sont nés et qu'ils se disent « mais alors, qui est mon géniteur ?», là, ils se heurtent non plus au non-dit de leurs parents, mais à l'interdiction légale d'accéder à leur dossier. Donc, pourquoi est-ce qu'on a organisé ce secret au départ ? Tout simplement parce qu'on n'assumait pas ce qu'on faisait, hein. On avait peur de cela même qu'on organisait, c'est-à-dire on avait peur que si on levait l'identité du géniteur, finalement, il puisse être un rival du père stérile. Et donc l'anonymat et le secret étaient conçus comme la seule façon pour protéger les parents dans leur statut. On ne voyait pas d'autre moyen que de dire, bien, en fait, on va organiser le recours à un donneur, puis ensuite on va maquiller ce recours à un donneur en une pseudo-procréation charnelle. On va faire comme si il ne s'était rien passé, il ne s'est rien passé. Et ainsi, si on efface ce qu'on a fait, eh bien, les parents seront confortés dans leur place de parents, il n'y aura pas de rival possible, mais aussi les donneurs seront protégés dans leur place de donneur, puisque personne ne viendra jamais les voir, puisqu'on ne saura pas qu'ils ont donné. Vous voyez, donc c'est une façon de dire, puis si on fait comme s'il ne s'était rien passé, ni vu ni connu, moi j'appelle ce modèle ni vu ni connu, eh bien, personne n'aura de problème. Alors ce qu'on n'avait pas prévu dans ce modèle de départ, c'est évidemment la situation qu'on allait faire à l'enfant, parce que le prix payé par l'enfant de ce modèle ni vu ni connu, c'est effectivement soit d'être trompé sur ses véritables géniteurs, soit si... il n'est pas trompé, si on lui dit de quoi, comment il est né, eh bien, d'être condamné par le seul effet de la loi, de rester sans réponse toute sa vie à la question « mais à qui dois-je d'être né ?» Et à partir de l'expérience des autres pays, on se rend compte que le sens de la revendication d'accès à leurs origines des enfants qui sont nés, ça n'est pas du tout de chercher des vrais parents biologiques, contrairement à ce qu'on accuse, on les en accuse, mais c'est très faux. Le sens véritable de leur revendication, c'est de revenir dans une condition humaine plus commune, plus proche des autres. C'est pourquoi j'ai appelé mon livre « Des humains comme les autres », parce que ces enfants revendiquent en fait d'être replacés dans le droit commun de l'humanité, hein, dans lequel on ne naît pas d'un matériau biologique, mais on naît parce que la vie nous a été transmise par d'autres, par des personnes. Voilà, on naît de personnes et non pas de gamètes ou de matériaux. Alors, c'est la particularité dans ce cas-là, c'est que les personnes à qui on doit la vie, par définition, n'ont jamais désiré devenir nos parents. Elles nous ont donné la vie, disent ces enfants, pour que d'autres puissent être parents. Mais cette situation qu'on organise, eh bien, la revendication des jeunes gens, c'est qu'en fait, on l'assume comme telle. Et c'est ce qu'ont fait les pays qui ont levé l'anonymat. Ce sont des pays qui n'ont pas du tout transformé les donneurs en parents, tout au contraire. Ils ont institué un statut nouveau de donneur d'engendrement. Ils l'ont sorti de l'ombre, en quelque sorte. Ils ont arrêté de le cacher. Et ces personnes ont été accompagnées par le droit dans le statut de donner pour que d'autres puissent devenir parents. Et confortées par le droit, les donneurs peuvent ne plus se cacher. Ils peuvent imaginer qu'un jour les enfants viennent les voir et disent « Ben oui, je n'ai jamais désiré ta naissance à toi en particulier. J'ai donné pour que d'autres puissent utiliser ma capacité procréatrice pour t'engendrer toi, mais tu es le fils, en fait, non pas du tout de moi, mais de tes parents, mais effectivement, c'est grâce à moi que cet engendrement a été possible, et je suis très heureux d'avoir permis ta vie. » Et donc, on commence à avoir en France des donneurs qui s'interrogent aussi sur pourquoi, finalement, on est tellement obsédé de les enfermer dans des placards, de les effacer, de les faire disparaître du paysage. Alors qu'ailleurs, en Angleterre par exemple, si vous avez la curiosité d'aller sur le site de la haute autorité anglaise, HFEA, la haute autorité pour la fertilité et l'embryologie britannique, vous voyez que dès la page d'accueil de son site, cette autorité s'adresse à la fois aux parents, c'est-à-dire ceux qui ont sollicité et reçu le don, mais aussi aux enfants et aux donneurs. Alors qu'en France, l'agence de la biomédecine s'adresse aux parents, aux futurs parents, mais elle ne s'adresse ni aux enfants ni aux donneurs, dont elle a un peu oublié la place dans cet engendrement avec tiers donneur. Voilà, donc la première partie de mon livre, ça consiste à essayer d'analyser, d'abord de décortiquer, de montrer les malentendus du débat français, et de les montrer non pas à partir d'une position de principe, mais à partir des leçons que nous pouvons tirer de l'expérience des autres pays qui ont levé l'anonymat. Alors, par exemple, c'est très important de savoir que, en France, vous entendrez très souvent dans les débats qui vont venir dire que si on levait l'anonymat, il n'y aurait plus de donneurs. Mais il suffit de se renseigner pour savoir que c'est faux. Par exemple, sur le site de la Haute Autorité britannique, qui est donc très facile d'accès, il y a des statistiques sur le nombre des donneurs de sperme et des donneuses d'ovocytes. Et de quoi s'aperçoit-on ? C'est qu'ils ont levé l'anonymat en 2005, le 1er avril 2005. Eh bien, depuis, chaque année, il y a eu une augmentation du nombre des donneurs de sperme et une augmentation du nombre des donneuses d'ovocytes. Chaque année, une augmentation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, en changeant son modèle, en cessant de maquiller le recours à une tierce personne, cette façon de faire des enfants à trois, on va dire, de le maquiller en une pseudo-procréation charnelle à deux, et en assumant cette façon de faire des enfants, les Britanniques ont eu à cœur de valoriser finalement le don, au lieu de le masquer comme s'il était immoral ou dangereux, de le dire, mais nous sollicitons ces dons sont éthiques, ils sont moraux, ils sont motivés par des raisons nobles, il n'y a pas à les disqualifier, il faut au contraire les valoriser. Et bien sûr, tout en garantissant les personnes qui les font que jamais elles seront confondues avec des parents, puisque le sens même du don, c'est donné pour que d'autres puissent engendrer. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que en accompagnant la loi d'un travail d'explication, les Anglais ont convaincu de plus en plus de personnes de faire des dons, mais ce sont des personnes différentes des donneurs d'autrefois. C'est ça le grand changement. Le donneur classique d'autrefois, c'est l'étudiant en médecine à qui on dit écoute, pour 50 francs ou contre un sandwich ou même pour rien, tu fais un don parce que de toute façon, ni vu ni connu, c'est 5 minutes pour toi et ça rendra des gens heureux et de toute façon, on ne te retrouvera jamais, tu seras effacé des tablettes. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le don. Un don, vous voyez, où on ne fait pas appel à la responsabilité des personnes, d'une façon. Alors que les dons dans les pays qui ont levé l'anonymat sont assez différents. Puisqu'on dit, vous allez donner, mais vous faites un acte important, là, qui va permettre qu'un enfant naisse, et cet enfant, un jour, pourra vouloir savoir de qui il est né. Il faut que vous soyez capable, s'il vient vous voir, de lui expliquer le sens de votre geste. Et on a donc des donneurs qui sont plus âgés, beaucoup plus souvent père ou mère de famille, et souvent qui connaissent dans leur entourage proche des personnes stériles, qui sont donc sensibilisées à cette question, hein, et qui souvent d'ailleurs revendiquent justement qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec leurs dons, qui souhaitent par exemple qu'on ne fasse pas naître, comme ça s'est vu aux États-Unis, 80 ou 90 enfants de leurs dons, mais qui demandent à ce qu'il y ait certaines limites qui soient mises à l'usage qui est fait de leurs dons, parce que justement ils ne sont pas des fournisseurs de matériaux, mais ils font un don qui doit avoir un sens. Voilà donc le sens de ma première partie, essayer de lever le malentendu du débat français. Et donc, dans la deuxième partie, j'essaye de revenir sur, les raisons profondes de ce malentendu quand on les replace dans un contexte qui n'est pas seulement celui de la biomédecine, des transformations des technologies, mais qui est celui des transformations de la filiation et de la parenté en général. Donc, je ne fais qu'évoquer cette deuxième partie. Mais en gros, je dis que si on veut comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer sur cette question, pourquoi nous restons fermés sur ce modèle ni vu ni connu qui lie l'anonymat et le secret, c'est parce que nous avons très peur des situations que j'appelle de pluriparentalité. Donc ces situations dans lesquelles il y a plus d'un homme et d'une femme, dans la conception d'un enfant ou dans la vie d'un enfant ou dans l'éducation d'un enfant. Notre modèle implicite de référence, c'est un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus. Donc ce modèle-là, il est aujourd'hui interrogé par le fait que nous organisons de plus en plus souvent des situations dans lesquelles, en fait, il n'y a eu plus d'un homme et d'une femme dans la conception d'un enfant. Donc c'est le cas de l'assistance médicale à procréation. Il y a plus d'un homme et d'une femme dans la conception d'un enfant. Mais nous organisons aussi des cas où il y a plus d'un homme et d'une femme dans la vie d'un enfant. Par exemple, il y a un développement de l'adoption. Il ne faut pas du tout opposer l'adoption et l'assistance médicale à procréation, bien sûr. Donc l'adoption, traditionnellement, n'était pas valorisée dans notre culture. L'adoption plénière ne date que de 1966. Et donc, ça n'est que dans les dernières décennies qu'on a vu un développement, une valorisation importante de l'adoption. Mais vous savez que pendant longtemps, on a traité l'adoption comme on traite maintenant l'AMP, c'est-à-dire on ne disait pas à l'enfant qu'il avait été adopté, parce qu'on avait peur justement que si on lui disait, il n'aime pas, il ne s'attache pas assez à ses parents adoptifs. Et puis ensuite, il n'avait pas accès à son dossier, parce qu'on avait peur que s'il retrouvait sa mère ou son père de naissance, et qu'il apprenne en plus que sa mère de naissance avait été obligée de l'abandonner parce qu'elle était dans la misère, etc. Eh bien, il s'attache à elle. Donc il y avait vraiment la peur des parents de naissance. Mais au cours des dernières décennies, on a un petit peu évolué et de plus en plus de parents adoptifs aujourd'hui comprennent que la quête de l'enfant, de connaître son histoire, n'est pas du tout une remise en cause de leur statut de parent, mais c'est une remise en cause de ce qu'on leur a fait à eux quand on a fait un blanc sur une partie de leur histoire en disant ben, pour que tu sois vraiment l'enfant de tes parents, il faut oublier une première partie de ta vie. Donc là, nous sommes vraiment dans une situation actuelle où beaucoup d'enfants adoptés, en particulier adoptés à l'étranger, sans remettre en cause leurs parents, et souvent en étant accompagnés par leurs parents adoptifs, en fait, essayent de reconstituer l'histoire de leur vie, hein, ce que Paul Ricoeur appelle leur identité narrative, hein, en essayant que le blanc qu'on a constitué, en effaçant l'histoire de leur naissance, en fait, ce blanc puisse être comblé de façon à ce qu'ils puissent reconstituer les fils de leur identité narrative, c'est-à-dire répondre, reconstituer les fils de leur histoire. Et c'est la même chose sur l'assistance médicale à procréation. Mais, encore une fois, il faut tout un travail pour admettre que une coexistence des parents de naissance, des parents adoptifs est possible. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été, je l'avoue, très bouleversée par une soutenance de thèse à laquelle j'ai participé, qui était faite par une jeune anthropologue qui avait justement été adoptée en Corée, avait fait tout un travail pour retrouver sa famille de naissance, et dans la salle, il y avait ses parents adoptifs qui l'avaient accompagnée dans cette quête, et aussi sa famille coréenne, qu'elle appelait comme ça, et finalement, ces gens avaient été, à leur grande stupeur réciproque, avaient appris qu'il y avait une place pour tout le monde, que la parenté n'est pas forcément un gâteau, ou ce qui quand on en enlève à l'un, on en donne à l'un, on en enlève à l'autre, que ça peut être un gâteau qui grossit, et qui avait la place dans le cœur de cette jeune fille et dans son histoire pour tout le monde. On n'était pas obligé d'en effacer pour que les autres existent. Et puis, la troisième situation de pluriparentalité, c'est les familles recomposées aussi, hein, qui sont plus banales. Les recompositions après un divorce, une séparation, où il y a les parents, mais aussi des beaux-pères, des belles-mères. C'est pareil, pendant très longtemps, on ne savait pas quoi faire de ces beaux-parents. Et de plus en plus, eh bien, dans de très nombreuses familles françaises, on apprend qu'il peut y avoir une coexistence entre une mère et une belle-mère, entre un père et un beau-père. Voilà. Mais nous avons beaucoup de mal à admettre ces situations de pluriparentalité. Il faudrait réfléchir pourquoi, et mon livre donne des pistes pour réfléchir pourquoi. Et dans une troisième partie, j'essaye, à partir de cette réflexion, d'inciter mon lecteur à être plus attentif, avoir une oreille, disons, plus ouverte à ce que demandent ces jeunes gens qui revendiquent l'accès à leurs origines. Au début, il faut savoir qu'en France, on les a beaucoup stigmatisés, on a dit que c'est des jeunes à problème, qui voulaient régler les comptes avec leurs parents, etc. Mais heureusement, grâce aux médias, on a eu de plus en plus d'émissions de radio, de télévision qui ont donné la parole à ces jeunes gens et qui ont essayé de respecter ce qu'ils disaient, d'entendre la nouveauté de leur discours plutôt que de la replacer dans les cadres classiques. Et ce que montrent ces jeunes gens quand on leur prête une oreille attentive, c'est au fond que le vrai enjeu de ce débat, c'est que peut-être nous devrions apprendre à associer des valeurs que nous nous obsédons à opposer. Et de ce point de vue-là, pour moi, ça a été la plus grande découverte dans l'analyse de ce débat bioéthique, sur laquelle je terminerai mon exposé, c'est ça. C'est que nous avons un débat bioéthique qui est entièrement construit depuis 3 ans sur une sorte de recherche du vrai parent. Puisqu'on est en situation un peu incertaine, on cherche à se rassurer en disant « mais c'est quoi un vrai parent de l'enfant ?» Et donc on oppose le parent biologique et le parent social. Et on dit ben, « le vrai parent, c'est le parent social, celui qui a voulu l'enfant, c'est ça le discours actuel. Et donc, eh bien, le parent biologique, il faut mieux l'effacer parce que ce n'est pas un vrai parent. » Or, ce que ces enfants nous rappellent, c'est que eux, s'ils sont nés, c'est justement de la coopération. Ils ne seraient pas là avec nous sans la coopération de ceux qu'on pose comme des rivaux. Et donc, eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir mettre un « et » là où notre société met un « ou ». La société dit « il faut choisir où vous avez des parents, où vous avez un donneur, vous ne pouvez pas avoir les deux ». Et ils disent « mais je suis là parce que j'ai eu les deux et je voudrais pouvoir avoir les deux ». Donc, le passage d'une logique du « ou », de la rivalité, si vous voulez, à une logique du « et », de la complémentarité. Et quand on commence à entendre ça, qu'on pourrait ajouter ce qu'on oppose, on s'aperçoit, et je terminerai là-dessus, que les enfants, en parlant ainsi, nous éclairent et éclairent le sens même de ce qui a été la démarche de leurs parents. Parce que leurs parents, quand on y réfléchit, ce sont les premiers à avoir associé les deux valeurs que notre débat bioéthique oppose. Dans le couple de parents qui recourent à un don, eh bien justement, dans leur couple, dans leur projet parental, sont bien associées ces deux valeurs que nous ne cessons d'opposer. D'un côté, la valeur qui est attachée au fait de faire un enfant, physiquement. Ce ne sont pas des couples qui adoptent l'enfant, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que l'un des deux puisse procréer. Et dans ce couple n'a la possibilité d'avoir, de recevoir un don que si l'un des deux procrée. Et donc, ils font tout pour que celui qui n'est pas stérile puisse procréer. Mais en même temps, le même couple, dans le même projet parental, qui a dit c'est très important pour elle ou pour lui de procréer, de faire l'enfant, de porter l'enfant, par exemple, si c'est une femme, le même couple dit c'est très important pour nous qu'on puisse devenir parents sans procréer. Et donc, vous voyez que c'est le même couple qui allie, dans le même projet, qui va donner un même enfant, celui qui procrée, celui qui ne procrée pas. Et ça, cette alliance de ce que nous opposons, ce sont en fait les enfants, c'est déjà présent dans le couple parental, mais c'est par la médiation du discours des enfants, de leur volonté justement de rassembler autour d'eux tous ceux à qui ils doivent la vie, c'est-à-dire les donneurs qui ont permis qu'ils naissent et les parents qui les ont véritablement engendrés, les donneurs ont permis qu'ils naissent, mais ceux qui ont voulu qu'ils naissent, ce sont leurs parents, et leurs parents qui ont allié, d'une façon qui paraît extraordinaire, mais que la médecine permet, dans un même engendrement, celui qui procrée, celui qui ne procrée pas. Donc, le paradoxe, en quelque sorte, d'un débat qui continue à opposer des valeurs, alors même que tout l'enjeu est pour les familles, pour les enfants, d'avoir pu les allier et de revendiquer que la société les accompagne dans cette volonté d'allier ce qu'on pose en l'opposant. Voilà.